Alors, on en parle depuis quelques années déjà. La dernière fois, c'était lors de la dernière tripartite. Les indicateurs économiques vont-ils aujourd'hui, M. Mekidesh, permettre et aider à l'émergence d'un tissu productif hors hydrocarbures où la situation est beaucoup plus compliquée qu'on le pense en raison de la chute drastique de nos finances et une administration lourde, même très très lourde, qui a verrouillé quasiment toute l'économie?
Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est toute la question du modèle de la croissance économique qui est à revoir, et ça a été l'objet d'ailleurs de la dernière tripartite, dont une partie était ouverte à la presse, vous avez assisté, une partie qui était fermée. Ça signifie que le débat n'est pas encore achevé sur la question, il y a encore un certain nombre de réflexions encore à mener pour pouvoir préciser le contenu et surtout donc chiffrer les conditions dans lesquelles ce nouveau modèle de croissance serait mis en œuvre. Car la question n'est pas d'être d'accord ou non sur le nouveau modèle de croissance, la véritable question c'est l'effectivité de sa mise en œuvre et son agenda. Je crois que c'est ça qui est essentiel, d'où la nécessité d'établir un certain nombre de priorités dans l'agenda des réformes. Alors, 2 ans après le début de la crise, 15 juin 2014, nous sommes 15 juin 2016, ça fait depuis 2 ans que la crise des prix des hydrocarbures s'est développée. Qu'a-t-on fait? A-t-on pris la mesure de l'ampleur de la crise? Alors, toute la question est là maintenant. Je pense que c'est le moment peut-être de faire un premier bilan sur la question. Je pense que pendant à peu près un an, donc la l'ampleur et la durée de la crise avaient été relativement sous-estimées, y compris par les pouvoirs publics, et que depuis un an, notamment à l'occasion de la loi des finances pour 2016, donc on a pris donc la mesure de l'ampleur de cette crise, et le premier élément, c'est la contrainte budgétaire. Donc, de ce point de vue-là, je vous rappelle que le déficit prévu pour 2016 était de l'ordre de 25 milliards, et je crois qu'on va clôturer, selon les premières estimations, à 30 milliards de dollars de déficit. Donc la situation, les éléments, si vous voulez, de réponse n'ont pas été suffisants pour pouvoir prendre en charge cet aspect de la crise qui est fondamentale.
Mais vous parlez d'effectivité du modèle de croissance économique. Quels sont les paramètres dont on doit tenir compte par rapport à ce modèle économique, en tenant compte bien sûr des contraintes budgétaires aujourd'hui que nous connaissons et le déficit, puisque vous dites nous allons terminer et clôturer l'année avec 30 milliards de dollars de déficit, alors qu'on a annoncé 25 milliards de dollars.
C'est simple, c'est qu'il va falloir allumer d'autres moteurs de la croissance. Parce qu'il va falloir trouver d'autres recettes budgétaires, sachant que de façon globale, si vous voulez, l'inertie fait qu'on a du mal ou des difficultés à rationaliser, sur le court terme tout au moins, donc les engagements budgétaires. Alors, pour pouvoir allumer d'autres moteurs de la croissance, il faut améliorer le climat des affaires, et de ce point de vue-là, les choses n'avancent pas aussi vite qu'il eût été souhaitable. Je pense par exemple au foncier. Donc il y a eu une disposition qui a été prise en août 2015 pour conférer au Wali un certain nombre de prérogatives pour pouvoir débureaucratiser, si vous voulez, l'accès au foncier des promoteurs. Si vous voulez, à moins d'un an après, donc on ne voit pas les choses aller aussi vite qu'elle aurait dû être.
Mais ça, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de perdre trop de temps avant d'agir?
Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on perd trop de temps. Donc, est-ce que les pesanteurs, les tropismes, les viscosités bureaucratiques, finalement, l'emportent? Alors, ce qui est étonnant, par exemple, c'est que pour le foncier, le premier secteur qui est en charge de ça, c'est le secteur des finances, qui précisément a besoin de ces investissements pour élargir ses recettes fiscales hors hydrocarbures. Et on sent que les choses n'arrivent pas à bouger aussi vite qu'on veut. Et là, à mon avis, autant il va falloir donc sauter ces verrous-là, autant par ailleurs, il va falloir mettre en place de véritables institutions de régulation du marché, car on ne va pas aller vers un capitalisme sauvage et débridé ou néolibéral, mais que l'on puisse, si vous voulez, donner aux conditions de fonctionnement des marchés leurs règles avec des institutions telles que le Conseil de la concurrence qui précisément veille à ce que l'information circule, à ce que les conditions d'exercice dans les marchés soient transparents et opposables aux tiers.
Alors, pour agir et agir vite avec efficience, puisque tout le monde est unanime, nous avons quand même un délai de 2 à 3 ans minimum pour pouvoir un peu sortir de cette situation. Est-ce qu'on doit garder toujours en mémoire ce qu'on nous avons enduré durant les années 90, plus précisément en 97, avec le programme d'ajustement structurel imposé par le FMI, c'est-à-dire ne pas perdre de vue qu'on pourrait arriver à une situation similaire à celle qu'on a vécue déjà par le passé. Ne pas l'oublier.
Je le crains.
Pour en tirer...
Oui, voilà. Tout à fait, je le crains parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la situation de la crise de juin 2014 était meilleure que celle qui était de celle de juin 86, où les prix des hydrocarbures sont descendus à moins de 10 dollars, parce qu'il n'y avait pas un certain nombre de mécanismes, si vous voulez, et de filets tels que les réserves de change, tels que le fonds de régulation des recettes. Mais sauf que nous, 2 ans après le début de la crise, on a notre capacité de résilience a diminué de 50%. C'est-à-dire, vous faites bien de dire que dans 2 ans, donc cette capacité de résilience, si d'autres moteurs de la croissance ne sont pas allumés, risque de nous mettre dans une situation extrêmement fragile. D'abord du point de vue de nos équilibres intérieurs, et puis ensuite de nos équilibres extérieurs, car là aussi, donc nous avons pioché dans les réserves de change. Alors donc, je pense que sur le plan du diagnostic, tout le monde est d'accord. Sauf que lorsqu'on met en œuvre, il y a moins de rapidité, plus d'inertie, parce qu'il y a des intérêts, il y a des lobbies, parce qu'il y a donc également des niveaux d'acceptabilité sociale et politique d'un certain nombre de réformes par l'ensemble des segments sociaux. Et il y a donc toutes ces questions qu'il va falloir, à mon avis, mettre à plat de façon transparente. Il n'est plus, maintenant, je pense qu'on n'a plus le temps d'utiliser un langage ésotérique ou superficiel. Il faut aller au fond des choses et dire les choses comme elles sont.
Alors, aller au fond des choses et dire les choses comme elles sont. Vous parlez de l'acceptabilité de certaines réformes par la société. Vous sous-entendez la question des subventions?
Oui, c'est un des éléments, c'est un des piliers de la réforme. C'est donc la mise à plat des systèmes de subventions. La question du gaspillage dans la dépense publique, y compris par les subventions. Je pense à la question de l'énergie. C'est une question dont il faut parler franchement. Les niveaux d'augmentation des prix qui ont été faits sont un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Dernièrement, au cours de la tripartite, le Premier ministre s'inquiétait sur le fait que l'augmentation des prix des carburants n'a pas diminué la consommation. Moi, je crois que l'explication est toute simple. C'est que nous ne sommes pas arrivés encore dans l'intervalle, si vous voulez, dans lequel la relation entre les prix et le niveau de consommation ont un effet d'élasticité. On n'est pas dans cet intervalle d'élasticité, de sorte que pour dire les choses simplement, les niveaux d'augmentation ne sont pas suffisants. Nos prix restent encore faibles du point de vue à la fois des carburants, mais aussi de l'électricité, comme l'a rappelé l'ex-directeur général de la Sonelgaz, qui à juste titre dit, moi je suis responsable d'un groupe qui doit donner de l'électricité à l'ensemble de la population et des entreprises. À ces niveaux de prix de l'électricité, je ne pourrais pas financer mes investissements et garantir, si vous voulez, un service qui soit de qualité. Et je pense que c'est une démarche tout à fait acceptable.
Mais Bouterfa avait dit aussi que l'augmentation ne représentait que 15% sur un déficit global de 75%. C'est-à-dire qu'il faut atteindre les 75% aujourd'hui?
Non, c'est-à-dire qu'il va falloir...
Ou alors il va falloir y aller graduellement.
Moi, je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez... aller de façon brutale. Il faut aller graduellement, mais il faut commencer.
Et sur le plan politique, on soutient qu'on est un pays social par excellence aussi.
Non, mais écoutez, être un pays social ou avoir un modèle social ne veut pas dire avoir un modèle de gaspillage, y compris dans l'énergie. Donc, et ça, c'est à mon avis, ça doit rentrer dans l'opinion publique et dans la classe politique. Parce que moi, j'observe beaucoup de réactions politiques qui ne sont pas en rapport avec la gravité de la crise. Parce que c'est une crise existentielle. Vouloir faire de la surenchère politicienne sur des questions dans lesquelles le pays est actuellement dans la crise, à mon avis, est inacceptable. Et qu'il va falloir probablement passer, et je pense que c'est un des prérequis dont on ne parle pas, les solutions ne sont pas uniquement de nature technique, ou certains diraient technocratiques, mais elles sont également de nature politique. Il faut qu'il y ait un pont, un dialogue national, un dialogue politique, entre l'opposition et les pouvoirs publics sur les minima à trouver pour sortir de cette crise. On ne peut pas rester, si vous voulez, dans des situations de non-dialogue sur ces conditions. Et je pense que c'est un des éléments qui va avec le consensus social, qui est en train de se construire péniblement, mais il se construit, avec quelquefois quelques dérives de la part du patronat, de la part du syndicat peut-être, mais il est en train de se construire. Mais sur le plan politique, à mon avis, les choses sont encore loin d'être ce qu'elles devraient être, si vous voulez, si on veut prendre la mesure de la crise dans laquelle nous sommes.
Mais on est toujours dans le constat où nous devons faire, et ça fait des années qu'on parle de cette situation. Faut-il agir maintenant et pas demain ?
Absolument, il faut agir. Absolument, il n'y a pas à attendre, comme je l'ai vu dans certains éditorialistes et certains analystes dans la presse, dire que, bon, il faut attendre l'alternance, ou de quelle alternance s'agit-il ? C'est les prochaines législatives, c'est les prochaines présidentielles. De quoi ? C'est maintenant qu'il faut agir, car si on laisse les choses en l'état, donc quelles que soient, si vous voulez, les majorités politiques qui seront en place, elles auront, si vous voulez, un problème plus complexe à régler. Et ça, à mon avis, devrait faire l'objet, comme je l'ai dit, d'un dialogue politique sérieux et pour déterminer, si vous voulez, un consensus minimal. Pour le reste, que le meilleur l'emporte.
Alors, on en discute actuellement, des solutions sont envisagées. Il y a le nouveau code des investissements qui est en débat actuellement au niveau du Parlement. Est-ce que vous considérez, M. Mekitesh, qu'il va apporter les changements profonds pour améliorer l'environnement économique de l'entreprise, pour la rendre beaucoup plus productive ?
La question, ce n'est pas une question de texte. Moi, je crois que, par exemple, la question, c'est la mise en œuvre effective et c'est d'obtenir, si vous voulez, une administration qui soit proactive pour la réalisation de ces investissements et non pas une administration qui de fait, si vous voulez, met de l'inertie dans la réalisation de ces investissements. Voilà la réalité des choses, car ce qu'il y a du point de vue de la facilitation des investissements est connu, donc, et on peut tout à fait comprendre. Donc ce texte va d'ailleurs simplifier les choses plutôt que les compliquer. Mais le problème, c'est sa mise en application, à la fois sur le plan de la levée des contraintes majeures qui freinent l'acte d'investir.